Chez Land Rover, nous avons tant d'aventures à raconter. Nous avons sillonné de nombreux pays. Nous avons participé à des films d'action, tout en partageant nos victoires. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble un nouveau chapitre avec nos SUV hybrides FlexFuel E85. Choisissez le super éthanol E85 et réalisez des économies avec un carburant à 66 centimes le litre. Rendez-vous chez votre concessionnaire Land Rover pour bénéficier de conditions exceptionnelles sur nos modèles hybrides.
Land Rover.
Prix de vente moyen au 5 mars.
De France Culture consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table. Comme fait culturel majeur, nous sommes en direct de l'espace Cardin à Paris, grâce aux équipes conjointes de France Culture et du Théâtre de la Ville. Une émission que j'ai le plaisir de présenter en l'absence exceptionnelle de Caroline Brouet. Au menu du jour, comme chaque dimanche, une madeleine à 12h15 qui recueille le souvenir culinaire d'une personnalité. Et cette semaine, c'est le réalisateur de documentaires et photographe Raymond Depardon qui s'est épanché sur un souvenir de campagne. Mais d'abord, un plat du jour en forme de plaisir onctueux et réconfortant. Un plaisir qui sent la gourmandise et peut-être même la transgression. Un goût qui lie les sauces, qui est parfois synonyme de ripaille et de festin. Ce dimanche, les bonnes choses se livrent à un petit exercice à contre-courant des tendances. Un exercice de défense du gras. Vilipendé, éliminé de nos régimes minceurs, le gras serait l'ennemi du siècle. Et pourtant, cette année d'incertitudes, de confinements multiples, certains chiffres ne mentent pas. Les ventes d'appareils à raclette ont explosé de 300% et une étude parue en mars 2020 démontre que le gras produit de la dopamine, cette molécule du plaisir. Le gras serait le réconfort ultime. Mais d'ailleurs, peut-on prendre du plaisir à manger sans gras et est-il aussi dangereux pour la santé qu'on a l'habitude de le penser? Aujourd'hui, dans Les Bonnes Choses, nous paraphrasons Alexandre Dumas, sans lard, point de cuisine.
La serviette sert à cacher lorsqu'on a l'ortolan dans la bouche, parce qu'on a la bouche pleine de graisse et l'ortolan est très gras. Alors on a toute la graisse qui dégouline. Alors vous voyez, je commence déjà à avoir de la graisse pleine à la figure, c'est ça qui n'est pas joli. Alors on est là.
Le gras apporte un côté gustativement qui est absolument irremplaçable, puisqu'une viande qui est pas grasse est une viande qui n'a pas de saveur.
Pour bien grandir,
ne mange pas
trop gras,
trop sucré,
trop salé.
Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs. Le gras, c'est la vie.
J'aime pas le jambon, j'aime que la couane. J'en coince un bout entre mes dents, je tire dessus, c'est amusant. Je mets même du beurre dans ma tisane. C'est un bonheur d'en mettre autant. Le gras ça flotte, c'est élégant. Mais du gras, et t'as-en bien, mais en par là. Ouais, du bon gras. Plus il y en a, plus c'est la joie.
Avec nous ce midi pour parler du gras sous toutes ses formes, deux francs mangeurs et sérieux experts en la matière. Victor Goutard, bonjour et bienvenue dans Les Bonnes Choses.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, auteur d'un ouvrage au titre transparent, Gras, paru aux éditions Arcole et plus récemment d'un livre de recettes intitulé Au beurre, dont vous nous raconterez tout à l'heure quelques-uns des secrets. À vos côtés sur la scène de l'espace Cardin du Théâtre de la Ville, Yves Cambord, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes le chef du comptoir du Relais, de ces avant-comptoirs à Paris, inventeur de la bistronomie dans les années 90. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est que vous êtes membre d'une mystérieuse confrérie, une société de croqueuses et de croqueurs, l'Amicale du Gras. Alors racontez-nous, Yves Cambord, qu'est-ce que c'est l'amicale du gras?
Ça porte bien son mot, c'est une amicale où on se retrouve entre cuisiniers, mais pas que, il y a aussi des bons mangeurs, des gens qui apprécient la bonne chair, et ça nous permet voilà de continuer à penser l'avenir, à penser la cuisine, justement, à passer des moments de débat et de plaisir, et toujours sur un thème du gras. Alors on choisit selon la saison où les réunions se réalisent. un produit qui fait partie des produits festifs, des produits qui sont, je dirais, onctueux et qui peuvent représenter dans l'imaginaire aussi, voilà, ce côté un peu ripaille et excessif, mais qui sont quand même des produits qui sont travaillés toujours avec beaucoup de, déjà, de respect de la matière et surtout d'anoblissement. Voilà, c'est du grand onctueux.
Alors vous avez gagné justement un grade d'honneur qui est le Graal au sein de l'amicale du gras, c'est-à-dire le Graal du gras. Qu'est-ce qui vous a valu cet honneur, Yves Cambon?
Alors ben, cet honneur, déjà, je pense que c'est un peu de par mes origines, étant fils de fermier et fils de charcutière, qui font que papa et maman ont donc réalisé une recette exceptionnelle de boudin. Donc l'année où j'ai reçu ce prix, là j'avais présenté le boudin noir béarnais, qui est un boudin, voilà, qui a beaucoup de caractère, beaucoup de puissance et surtout, voilà, cette rondeur, cette longueur en bouche que le gras peut amener.
Alors vous, Victor Coutard, vous n'êtes pas membre de l'Amicale du Gras, mais vous en seriez un sérieux candidat.
Je postule, comment on fait pour avoir son accréditation?
Faut bien se tenir à table.
Bien se tenir
à table.
Alors attention, Victor Coutard, tenez-vous bien. Et alors, vous le dites dans votre livre, vous vous décrivez vous-même comme faisant partie du clan des amoureux du bon gras. Alors on essaiera dans quelques instants de comprendre ce que ça veut dire, le bon gras, et à quoi il s'oppose. Mais d'abord, on peut peut-être commencer par poser la question la plus simple. Qu'est-ce que c'est le gras?
Eh ben, le gras, c'est un ensemble de choses. C'est d'abord la graisse, donc les lipides, mais c'est aussi un sentiment en bouche. C'est l'onctuosité dont parlait Yves. Ça fait que parfois, on dit que un aliment est gras alors qu'il n'est pas riche en graisse. On parle d'un café gras, par exemple. Donc c'est cette onctuosité, c'est évidemment aussi la graisse, les lipides, ce qu'on trouve dans le beurre, dans l'huile d'olive.
Pour nous, en tant que cuisinier, le gras, c'est une matière première, c'est une matière noble. Quand on réalise, par exemple, une recette, pour être vraiment concret, on va choisir, bien sûr, notre protéine principale du plat, on va choisir la garniture, ce qu'on peut appeler le végétal, et on va aussi choisir le gras. Le gras, c'est monsieur le maire. Voilà, c'est le bon terme, c'est monsieur le maire. C'est lui qui va accompagner les matières premières et qui va permettre le mariage, voilà, des saveurs, des unes avec les autres.
Le gras est indispensable en cuisine, Yves Cambon?
Le gras est totalement indispensable en cuisine. Le gras, c'est la cuisine, quoi. Voilà, bien sûr, avec intelligence, avec délicatesse, sans excès, mais il est totalement indispensable. C'est un révélateur de goût, c'est un exauceur de goût.
Alors, si vous faites partie d'une amicale et que vous avez publié un livre, on le disait tout à l'heure, un peu à contre-courant, est-ce que c'est parce que le gras a besoin d'être défendu? Et si oui, contre qui et contre quoi, Victor Coutard, puis Yves Cambon?
Je sais pas si le gras a besoin d'être défendu. Peut-être que on a besoin d'être déculpabilisé sur son utilisation de gras, parce que concrètement, on mange du gras toute la journée, du beurre, des viennoiseries, de l'huile d'olive, du gras. Le gras fait partie de la cuisine, ça c'est un fait. Par contre, ces dernières années, on a pu voir que en rayon cuisine des librairies, il y avait une multiplication des livres sans, et notamment sans gras. Et tout ça était amené par une vision de la cuisine qui était une vision comme un médicament, ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est l'obsession de manger sainement. Et on voulait voir dans le gras l'ennemi absolu, cette matière qui était forcément mauvaise. Alors que, à mon avis, on se trompait d'ennemi. Il y a des bonnes et des mauvaises matières grasses. Toute la question est de choisir les bonnes et aussi de les mettre dans la cuisine, les ingérer dans la cuisine sans excès, et donc avec parcimonie. Et en fait, c'est le talent du cuisinier d'arriver à doser les équilibres dans un plat.
Et parce qu'il y a aussi une question de santé publique. Aujourd'hui, on considère que 20%, un jeune sur 7 serait obèse. 20% des jeunes qui sont en troisième aujourd'hui en France seraient en surpoids. Alors, est-ce qu'on peut faire l'éloge du gras sans faire l'éloge de la malbouffe ou de la nourriture fast-food?
Lier l'obésité au gras, c'est un contresens, parce que l'obésité, elle est surtout due au sucre. Et en fait, les problèmes d'obésité sont liés à un rapport sucre-gras, mais le mal, si je peux dire, vient surtout du sucre.
Oui, je pense que c'est surtout que on se trompe de combat, parce que c'est pas le gras en tant que matière matière qu'il faut combattre, c'est le gras, le graisseux, le gras souillé, quoi. C'est le plat qui est réalisé, l'hamburger, quoi. C'est, y a rien de plus terrible que ces hamburgers avec ces sauces grasses, le pain gras, tout est gras dedans, qu'il faut combattre. C'est la malbouffe qu'il faut combattre. Le gras, quand il est utilisé, voilà, dans le sens noble qu'on doit l'utiliser, en tant que matière première principale de nos cuisines, il est surtout pas à combattre. Au contraire, il est à respecter, je le redis, et à accompagner pour créer cette cuisine exceptionnelle que la gastronomie française a la chance d'avoir.
Mais alors, comment on fait pour trouver le bon gras? Puisque vous me dites, voilà, le mauvais gras, c'est la malbouffe, c'est le hamburger, mais le bon gras?
On fait pareil que pour trouver une bonne carotte, on fait pareil que pour trouver un bon bœuf. Là, il faut avoir de la connaissance, il faut avoir de la culture, et il faut savoir acheter la bonne matière première avant de cuisiner. Puisque je dis, c'est vraiment un produit principal de nos assiettes.
Et il faut avoir de la curiosité aussi, c'est très important, et puis de la gourmandise, parce que finalement, moi j'abonde dans le sens de Yves, on se trompe d'ennemi. Quand on fait du gras l'ennemi de nos artères, on ne fait pas de l'industrie agroalimentaire l'ennemi qu'elle est. Pour trouver du bon gras, il faut faire acte de curiosité, il faut aller parler avec le producteur, il faut aller parler avec le restaurateur. Le grand problème des mauvaises graisses, c'est dans les produits ultra transformés. Quand dans l'hamburger suintant qu'on trouve dans les fast-foods, c'est des produits ultra transformés. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et il y a du gras partout.
Et par exemple, les bonnes graisses, on peut parler d'oméga, vous en parlez dans votre livre, le gras. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ça, de ce qu'apporte le bon gras à l'organisme humain?
Alors, moi, je suis hyper nul en science, donc je vais dire que des bêtises, vous allez recevoir des lettres d'insultes. Mais ce que je sais, c'est que il y a eu des études qui ont été faites, notamment sur le gras du cochon quintoa qui vient de chez vous, et des études qui ont été portées par des chercheurs de l'INRA et qui ont tenté d'approuver que le gras du porc quintoa avait les mêmes vertus à dose pas excessive que l'huile d'olive, que le beurre à raison de je sais plus combien de grammes par jour avait des vertus positives, parce qu'il faut comprendre que notre corps a besoin de gras pour survivre également. Notre cerveau fonctionne avec du gras. On a besoin de gras pour capter l'énergie, on a besoin de gras pour beaucoup de choses, en fait. On peut pas se passer
de gras. Après, le gras, c'est comme tout produit. Si on est dans un excès total, que ce soit le sel, que ce soit le poivre, voilà, c'est sûr que je pense que c'est nocif pour la santé, mais quand on le s'est fait avec un bon équilibre, c'est indispensable pour la santé. Et moi, en tant que cuisinier, je dis surtout, c'est indispensable pour le goût. Parce que moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, quand même. En finalité, c'est simplement le goût, c'est indispensable.
Oui, parce que c'est la définition du poison, en fait. Rien n'est poisonneux en soi. Tout est une question de dosage. Et le grand problème dont le gras a été victime ces dernières années, c'est d'excès, et de mauvaise qualité et d'excès.
Alors là, vous faisiez justement le parallèle entre le cochon de quintoa et l'huile d'olive, et moi, ce qui m'a frappé en préparant cette émission, c'est justement la diversité des gras. Lorsqu'on pense au gras, on peut penser tout de suite, comme ça, naturellement, au cochon ou au lard, mais en réalité, le gras se trouve dans toute une série d'aliments très divers les uns des autres.
Oui, le gras, je dirais, c'est un territoire. Selon le territoire où vous vous trouvez, vous allez utiliser différents gras. Le gras, ça marque la cuisine régionale française. Que vous mangez un plat qui est fait dans le sud-est, vous allez avoir, voilà, un gras qui est apporté par l'huile d'olive. Si vous mangez chez nous, dans le sud-ouest, on va avoir un gras qui va être amené par une graisse de canard. Si vous allez sur la Bretagne et la Normandie, vous allez avoir un gras qui va être le beurre. Le gras fait partie, voilà, culturellement, de chaque territoire français, et c'est sans doute l'identité première de cette cuisine traditionnelle française régionale.
Victor Coutin.
Et c'est peut-être d'ailleurs une première définition de ce que c'est qu'un bon gras. Le bon gras est marqueur de son terroir. Si vous prenez un beurre de froment du Léon dans le nord de la Bretagne, ou un beurre de pinoir dans le sud de la Bretagne, ces vaches de variétés différentes, qui auront mangé des choses différentes, qui auront vécu dans des univers différents, vont créer des beurres de goûts différents. C'est pareil, si vous prenez une tranche de jambon quintoa, il y aura le goût des châtaignes et des pâturages des Pyrénées. Et le bon gras, c'est l'arme pour combattre la standardisation des goûts.
Très bien. Alors, il y a aussi quelque chose de passionnant, c'est quand on se plonge, en quelques mots, Victor Coutard, dans l'histoire du gras. Là, vous nous faisiez, Yves Cantebord, la géographie du gras et de ses terroirs. Mais il y a aussi une histoire et comment le beurre, par exemple, est venu tardivement s'attabler aux côtés des rois de France.
Oui, c'est très drôle l'histoire du beurre, parce que pendant très longtemps, le beurre n'était pas du tout la graisse principale en France. C'était le saindoux et la graisse de canard. Alors, en fait, il y a une histoire assez drôle avec l'Église catholique et la réforme protestante. Il faut comprendre qu'au Moyen-Âge, un jour sur trois quasiment était un jour dit maigre. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas droit de manger de gras. Et puis, quand il y a eu la réforme protestante, Luther a dit, écoutez, venez chez nous, vous aurez le droit de manger du beurre pendant les jours maigres. Alors l'Église s'est mise un peu au niveau, là, tout de suite, comme ça, et puis le beurre a commencé à gagner des parts de marché petit à petit, mais c'est vraiment imposé après la Révolution française, quand, avec l'ouverture des restaurants, la cuisine française a créé les sauces, quand la cuisine française a voulu conserver le goût des légumes, et donc c'est là que le beurre s'est véritablement imposé comme l'élément essentiel de la cuisine française.
En un mot, Yves Cantebord, le beurre, c'est le cœur pour vous de la cuisine française?
Le beurre, je dirais pas que le beurre c'est le cœur de la cuisine française. Le beurre fait partie de la cuisine française et qu'il amène un goût très spécifique quand on l'utilise, bien sûr, de la façon classique, de façon meunière. Voilà, il y a ce côté noisette qui réapparaît avec des arômes très particuliers. Mais la cuisine française, voilà, je leur dis, c'est les terroirs de France. C'est aussi bien l'huile d'olive que le gras salé de porc ou que la graisse d'oie.
Il est 12h15 sur France Culture, vous écoutez Les Bonnes Choses. On vous retrouve dans quelques minutes pour mettre les pieds dans le plat, dans le beurre et dans le lard, juste après la madeleine.
Oh, 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 vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes?
Si,
mais non.
Si, vous me donnerez la crème fraîche avec mon chou farci.
Bien entendu, monsieur.
Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça?
Si.
Mais à votre âge, ça peut être dangereux.
Mais j'ai toujours vécu dangereusement.
Et cette semaine, dans la Madeleine, nous vous proposons d'écouter l'incontournable réalisateur et photographe Raymond Depardon, qui a publié récemment un magnifique ouvrage rural aux éditions de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, où il présente le fruit d'une décennie qu'il a passé à sillonner la France paysanne avec sa chambre photographique, des images en noir et blanc qui explorent un monde qui est le sien puisqu'il y a grandi, et qui raconte la terre, les hommes, le travail manuel et aussi la solitude et parfois la fragilité des petites exploitations agricoles. Alors quand je suis allé voir Raymond Depardon pour lui demander pour recueillir sa madeleine, c'est là qu'il nous a emmenés à la ferme, celle de ses parents. Il nous emmène auprès d'un plat tout simple, gras évidemment et indétrônable.
Ma madeleine à moi, c'est des œufs au plat avec une salade, une laitue. Je me souviens quand j'étais à Paris, jeune photographe, je revenais à la ferme du Garret, ma maman me préparait des œufs comme ça. Les œufs, c'était des œufs de la ferme. Et ça, effectivement, la différence, tu la vois comme ça. La salade aussi, qui vient du jardin, bien sûr, elle allait la chercher sans que je le sache. Les œufs, peut-être qu'elle allait les chercher au poulailler aussi, sans que je m'en rende compte. Elle me disait rien, mais c'est vrai. Il y avait pas beaucoup d'œufs. La ferme était petite à l'époque parce qu'il y avait quand même moins d'activité qu'avant. Mais quand même, je sais pas. J'avais l'impression, elle mettait peut-être beaucoup de beurre quand même. Non, mais bon, ouais, moi j'aimais bien ça. J'ai toujours été un petit peu fort comme ça. Alors donc il y avait de la graisse un peu, sans doute. Donc la graisse était présente, donc qui fait que c'était bon, quoi, bien sûr. En plus, comme la ferme avait un éclairage néon comme ça, et sur la toile cirée, la couleur du blanc et du jaune là, c'est d'un œuf tout bête que tout le monde connaît. Et peut-être l'assiette, le plat, la salade, le verre, comme ça, tout ça me paraissait merveilleux et je n'ai jamais retrouvé. Bon, bien sûr, comme tout le monde, on a beau dire après à sa femme, à l'hôtel où on est, on n'a jamais aussi bien. Quoi. Voilà, on est toujours à rechercher ce plat qu'on ne retrouvera nulle part, parce que là, ici, à Clamart, il n'y a pas de poule. Et puis, quand je suis en voyage, il n'y a pas de poule à côté, il n'y aura jamais de poule. C'est un truc que je ne retrouverai jamais, quoi. Et c'est peut-être ce qui symbolise le plus l'enfance. Oui.
Va te faire cuire un œuf sur le plat pour bien deux œufs, si t'aimes mieux ça. Va te faire cuire un œuf.
La madeleine très photographique de Raymond Depardon qui évoque la douceur du gras de l'œuf au plat fermier. Yves Cantebord, est-ce que le gras vous aussi, ça vous ramène à votre enfance?
Oui, moi, ça me ramène aussi à mon enfance, parce qu'on avait une ferme, on avait une vingtaine de vaches, et le premier gras, où j'ai vraiment un souvenir du gras, c'est la crème de lait. C'est-à-dire que mon papa trayait les vaches, et donc il mettait ça dans des brocs, c'était des brocs en fer à l'époque, et donc il y avait la crème au-dessus, et elle nous était réservée, on avait le droit d'aller prendre une cuillère et d'aller manger cette crème. Et c'était une crème qui avait une matière grasse, qui était très importante, mais justement, elle diffusait les arômes de la ferme. Ça sentait, bien sûr, ça sentait la vache, mais ça sentait le foin, ça sentait toute la floraison, toutes les matières que les animaux avaient mangées, quoi. Ça nous permettait, voilà, de voyager. C'est des goûts qui nous restent. C'est des goûts qui nous restent, c'est des goûts qui nous ont marqués. Et c'est souvent des goûts, là, comme c'était expliqué tout à l'heure, c'est que c'est des goûts qui restent dans notre imaginaire, quoi, qu'on n'arrivera jamais à retrouver, quoi. Alors, c'est sans doute des goûts comme ça qui m'ont permis à moi d'être cuisinier.
Je vais prendre quelques mots de votre glossaire du gras, Victor Coutard. Barde, beurre, couenne, crème, flèche, graillon, graton, huile, lard, margarine, mayonnaise, rillon, saindoux, suive, ventrèche. J'ai même presque fait le glossaire au complet. On parlait d'onctuosité, de douceur. Qu'est-ce que le gras apporte en bouche, vraiment, d'un point de vue culinaire, Victor Coutard, et après Yves Cantebord?
Bah, je pense que Yves répondra mieux que moi, mais il y a plusieurs choses qui sont de l'ordre de l'émotion pure et dure. Il y a ce côté régressif, très certainement, puisqu'on a tous des souvenirs d'enfance, de viennoiseries, de crêpes, de pommes. Moi, c'était ma grand-mère qui me faisait des pommes avec une quantité de beurre astronomique. Il y a le côté régressif, il y a le plaisir, tout simplement. Il y a un côté très réconfortant dans le gras. Ça apporte de la matière, mais ça cale un homme aussi, et ça permet d'être heureux. Après, le beurre a plusieurs fonctions. Enfin, le gras a plusieurs fonctions. Ça peut permettre de lier les aliments entre eux. Par exemple, le beurre dans une purée, ça peut permettre de frire. Et ça peut permettre tout simplement de jouer comme exhausteur de goût. C'est la noisette de beurre ou le filet d'huile d'olive sur des légumes cuits à la vapeur.
Moi, le gras, je parlais par rapport au goût. Je vais prendre un exemple concret, c'est le pot-au-feu. Là, on fait des pot-au-feu, bien sûr. Le gras pendant la cuisson du pot-au-feu, le gras que la viande peut rejeter, ce gras-là, on va l'enlever. C'est un gras qui est cuit et c'est un gras qui peut être lourd. C'est aussi l'évolution de l'utilisation du gras. On utilise le gras de façon totalement différente qu'on l'utilisait il y a une trentaine ou quarantaine d'années. Et on va arriver à avoir un pot-au-feu final en finalité qui va être sans gras sur la surface. Et tout l'intérêt, c'est qu'on prend un gras. On prend par exemple un gras de canard, de foie gras de canard, et on va aller graisser notre pot-au-feu, mais vraiment avec délicatesse, sans excès. Et ça va nous permettre, à la première cuillère qu'on va consommer, voilà, d'avoir, voilà, une longueur de palais, une longueur de bouche, un déclencheur de toutes les saveurs du pot-au-feu. C'est-à-dire que c'est ce gras qui est vraiment pas excessif, qui est juste là pour déclencher en nous une émotion sur les papilles gustatives qui va nous faire aller, voilà, rentrer profondément dans toutes les autres saveurs du pot-au-feu. C'est-à-dire qu'il va nous ouvrir la porte du goût. Il va pas nous détériorer, c'est pas grassouillé, c'est simplement, voilà, l'ouverture du bonheur vers le goût.
Alors justement, comment aujourd'hui cuisiner le gras en accord avec notre culture culinaire? On le voyait dans le montage effectué par le réalisateur de l'émission Jean-Christophe Francis en début d'émission. Je pense que tout le monde a reconnu la voix légendaire de Maïté qui parlait du gras dégoulinant de l'ortolan qu'elle était en train de manger.
C'est notre temps, quoi.
Et alors, comment on fait justement pour sortir de cette cuisine de papa, pour sortir du stéréotype de gras? Comment est-ce que vous adaptez
cette cuisine? C'est pareil, je vais vous l'exemple, c'est comment on a fait pour arrêter de faire des poissons qui étaient archi-cuits, qu'on cuisait pendant 25 minutes au four, pour faire des poissons rosés à l'arête, pour avoir tout le plaisir du poisson. La seule manière, avant, on mettait 100 grammes de beurre, et on cuisait notre sole dans le beurre, on la rôtissait avec le beurre, on l'arrosait, et c'est vrai que la sole, elle avait un bon goût, mais elle était lourde, autant propre qu'au figuré. Aujourd'hui, une sole, on va y amener un corps gras comme une huile d'arachide assez légère, on va rôtir notre sole délicatement avec très peu d'huile, et à la fin de la cuisson, on va prendre pas plus qu'une cuillère à café de beurre de micelle qu'on va poser dans notre casserole. Ce beurre instantanément va roussir, on va arroser notre sole, mais très délicatement, mais très rapidement, et on va servir. Donc on aura une sole qui aura ce bon goût de beurre noisette, mais qui sera pas spongieuse et chargée en beurre. C'est l'utilisation du gras aujourd'hui qui a complètement changé. C'est pour ça qu'on peut pas faire une guerre au gras. On l'a fait évoluer on a su, quelque part, l'apprivoiser et l'amener dans nos assiettes contemporaines en conservant le goût et le plaisir qu'il amène.
Oui, parce qu'on a évolué. Il y a des choses qu'on sait maintenant, qu'on avait peut-être omis de savoir il y a quelques années. Je pense par exemple au beurre noir, qui est vraiment un truc absolument terrible, qui est considéré à faire noir sur le beurre. Ça, c'est le cancer
promis. Ah, c'est la fameuse raie au beurre noir.
Oui, et ça c'est terrible. Par exemple, pour le beurre a un point de fumée très bas. Le point de fumée, c'est le degré à partir duquel un aliment s'abîme et perd de ses qualités. Et donc, on ne peut pas faire chauffer un beurre très très fort. C'est pour ça que dans la sole de Yves, il la met à la fin, parce que s'il la laisse tout du long, ce beurre perd de sa qualité gustative. Alors, si on veut utiliser du beurre pour frire, pour aller plus haut, il faut faire ce qu'on appelle du beurre clarifié. Et ça, c'est très facile à faire, mais ça permet de ne pas faire griller le beurre, donc de ne pas perdre ses capacités, perdre ses...
Après, il y a une chose très importante aussi, c'est que voilà, aujourd'hui dans la grande gastronomie française, le gras est utilisé essentiellement par rapport au goût. Alors que malheureusement, dans l'agroalimentaire et dans beaucoup d'autres milieux, il est utilisé pour le poids, parce qu'il cale et qu'il coûte pas cher. Et c'est là que c'est dramatique, c'est là qu'il faut le combattre à tout prix, et qu'il faut vraiment arriver à trouver une solution, à arrêter ça. Et l'obésité, elle vient de ça, l'obésité, elle va pas venir, parce que je vais faire une bouillabaisse qui va être bien préparée sans matière grasse excessive au-dessus, et qu'à la dernière minute, je vais simplement rajouter une cuillère à café d'huile d'olive sur ma bouillabaisse pour donner ces arômes de bouillabaisse, que je vais amener l'obésité à mes clients. Non, je vais leur donner le plaisir, la jouissance du bon gras utilisé intelligemment.
Victor Coutard, je vous en prie.
Et je voulais rajouter une histoire parce que on associe donc le beurre notamment à ces problèmes d'obésité, de cardiaque, etc. On sait maintenant, parce que les archives ont été déclassifiées, que dans les années 60, l'industrie, le lobby du sucre a commandité des recherches, des fausses recherches, pour incriminer le gras sur les problèmes d'obésité, les problèmes cardiovasculaires, etc.
Oui, ce qui a été révélé par une étude révélée par le New York Times il y a quelques années.
C'est ça. En 2014, il y a eu ce titre fracassant New York Times, Eat Butter,
c'était le Times Magazine, la une du Times Magazine, voilà, Eat Butter, avec une magnifique lichette de beurre.
Notre beurre, ouais. Et on sait désormais que c'est faux. Que ça a été commandité par le lobby du sucre, qui voulait continuer à vous faire bouffer du Coca-Cola, des produits ultra transformés, etc. Les mauvais produits, c'est les produits ultra transformés.
Alors revenons dans l'assiette pour finir cette émission qui approche déjà de sa fin. Yves Cambord, vous au comptoir ou à l'avant-comptoir, comment est-ce que vous aimez présenter le gras, si vous devez choisir un élément que vous aimez transformer, que vous présentez à vos clients?
Si je devais choisir un élément, je vais utiliser du gras salé. C'est une recette de Bretagne, du nord du Finistère. Ils faisaient un gras salé parce qu'à l'époque, voilà, c'était pour les ouvriers, il n'y avait pas la possibilité d'acheter du beurre. Et j'ai repris cette recette. En fin de compte, c'est simplement du saindoux qui est salé. Dedans, j'y rajoute un peu de gingembre haché et du romarin. Et je laisse macérer ça au réfrigérateur pendant quelques jours. Et en ce moment, avec les asperges, je vais prendre simplement une petite cuillère à café de ce gras, mais qui est parfumé et assez mariné, macéré, dans une poêle. Je vais le faire fondre et je vais jeter mes asperges dedans. Et la rencontre entre le saindoux mariné avec gingembre, romarin, cette petite saveur un peu contemporaine, je vais anoblir, et mes asperges. Et mes asperges, je vais les laisser vraiment pas crues, mais pas très loin, très croquantes, pour garder tout le végétal, toute la fraîcheur. Et la fraîcheur va se révéler à la dégustation grâce, voilà, à ce saindoux qui aura fondu et qui aura accompagné ces saveurs.
Alors, il n'y a
ça
plus
va qu'à les enrober.
Il n'y a plus qu'à prier pour la réouverture des restaurants et la fin des confinements pour pouvoir goûter ce saindoux nappé sur les asperges. Victor Coutard, je crois que vous aviez vous aussi préparé une recette qu'on ne manquera pas de mettre sur la page des bonnes choses sur le site de France Culture. Merci à tous les deux. Yves Cambord, je rappelle, vous êtes membre éminent de l'Amicale du Gras, chef du comptoir du relais des avant-comptoirs à Paris. Victor Coutard, auteur de Gras et de Au beurre.
Avec ma femme, Gala Colette, qui a co-signé Au beurre.
Absolument. Alors,
Merci beaucoup. LBC, c'est la fin de cette émission. LBC, les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Merci à toute l'équipe des bonnes choses, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Jean-Christophe Francis, et à nos techniciens et techniciennes du jour, aussi bien de Radio France que du Théâtre de la Ville, Tanguy Le Corneau, Thomas Robin, Thibaut Nassim Ben, à la production Éric Gérard, Francesca Fossati, Wojtek Noiret. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à tous à l'écoute de France Culture. Dans un instant, le journal suivi des signes des temps de Marc Wetzmann.